Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, heureux de vous retrouver pour Le Monde Aujourd'hui, une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide à Washington avec à mes côtés Anne Albertson en ce vendredi 14 novembre 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Un coup d'œil sur le contenu ce matin. Au Burkina Faso, militaires et civils s'accordent enfin sur l'avenir du pays.
Le présent projet le charte de la transition a été adopté à l'unanimité.
Au Congo-Kinshasa, un parti politique accusé d'être derrière un nouveau groupe armé au Nord Kivu. Ailleurs dans le monde, l'État islamique diffuse un enregistrement de son chef al-Baghdadi après des rumeurs sur sa mort. Et dans la partie magazine, l'ONG SMF va tester en Afrique des traitements cliniques contre Ebola.
Il y a 3 essais qui sont planifiés, 2 avec des produits qui sont déjà employés contre d'autres virus, et le 3e, un essai sur le plasma et le sang convalescent.
Ne manquez pas non plus le condensé de l'actualité sportive et la plage musicale en fin d'émission.
Au Burkina Faso, une charte de la transition a enfin été adoptée hier par les civils et les militaires. Cette charte recommande la nomination par un collège électoral d'un civil qui n'appartient à aucun parti politique comme président de la transition. Idem pour le président de l'Assemblée, devenu Conseil national de transition, une chambre de 90 membres. Le président nommera un civil ou un militaire au poste de Premier ministre afin de diriger un gouvernement de 25 membres. Le lieutenant-colonel Isaac Zida est à la tête du pays depuis le départ du président Blaise Compaoré. Voici sa réaction.
Donc je pense que nous avons fait beaucoup de concessions dans l'intérêt de Burkina Faso. Nous avons ce sens de responsabilité-là. Nous allons veiller à ce que la transition se passe très bien. Nous ne voulons pas mettre une transition en place qui va bloquer dans 2-3 mois, mais nous voulons mettre une transition qui va aller jusqu'aux élections libres, justes, transparentes, acceptables et acceptées par tout le monde.
Des propos recueillis par notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouenogo, que nous retrouverons plus tard.
Burkina encore, le Fonds monétaire international va geler son soutien à ce pays. Le FMI dit vouloir attendre la formation d'un gouvernement reconnu internationalement pour reprendre l'aide. Nicolas Pineau.
Oui, c'est William Murray, un porte-parole du FMI, qui a fait cette annonce lors d'une conférence de presse au siège de l'organisation à Washington. En décembre 2013, le Fonds monétaire a ouvert une ligne de crédit de 41,6 millions de dollars sur 3 ans en faveur du Burkina Faso, dont le versement par tranche est soumis à des audits trimestriels et à des réformes. La chute du président Blaise Compaoré a tout chamboulé et le FMI attend désormais la formation d'un gouvernement reconnu internationalement pour reprendre son aide. Il y a 10 jours, le Canada avait annoncé suspendre son aide au développement en raison de la situation à Ouagadougou. Ottawa estimait que la situation actuelle au Burkina ne permettait pas de s'assurer que les fonds destinés à l'aide au développement seraient utilisés de façon efficace aux fins prévues.
En Côte d'Ivoire, l'opposition réintègre la commission électorale indépendante qu'elle boycottait depuis le mois de septembre parce qu'elle s'estimait insuffisamment représentée. L'annonce a été faite par l'Alliance des Forces démocratiques, coalition dont fait partie le Front patriotique ivoirien, le FPI anciennement au pouvoir. C'est la résultante du dilemme auquel ce parti faisait face, estime Ferro Bali, journaliste indépendant à Abidjan.
Le comité central du FPI a demandé que le parti se retire de cette structure chargée d'organiser des élections en Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que le FPI a créé une structure qu'on appelle l'Alliance des Forces démocratiques. Et cette Alliance des Forces démocratiques n'a fait que suspendre sa participation à la commission électorale. Voici un peu le piège dans lequel se trouve pris l'ex-parti au pouvoir en donnant en même temps à son représentant, à la CEI, 2 mandats qui n'ont pas la même signification par rapport à l'évolution politique du pays. Et donc, M. Alain Debout, s'il rentre, ce ne sera pas au nom du FPI parce que le comité central ne s'est pas dédié depuis le 13 septembre. Ce sera au nom donc de l'AFD que le FPI a créé comme plateforme politique pour négocier avec le pouvoir.
Le journaliste Ferro Bali, joint à Abidjan par Jean-Roger Bion. Pour rappel, l'élection présidentielle est prévue en Côte d'Ivoire en octobre 2015.
Au Niger, le maire de Niamey a limogé l'ensemble de la police municipale après des échauffourées avec la police nationale. Les précisions de Félix Yepassi Zembrou.
Le maire Hassan Seydou a révoqué la totalité des 204 membres de la police municipale de Niamey. Ces derniers étaient en grève mardi et mercredi pour exiger de meilleures conditions de travail. Ils avaient organisé un sitting et bloqué l'accès à des édifices publics. La police nationale est alors intervenue à coups de gaz lacrymogène pour les disperser. Il s'en était suivi des affrontements et plus de 20 officiers de la police municipale ont été arrêtés. Abdou Moumouni, porte-parole de la mairie, affirme que ce comportement ne les honore pas et qu'ils n'avaient pas le droit de résister à la police nationale. Ainsi, le maire a décidé de renvoyer l'ensemble de la police municipale, l'accusant de rébellion et indiscipline. Les forces de sécurité ont pour le moment remplacé les policiers municipaux qui ne portent pas d'armes. Ils ont été recrutés l'année dernière pour protéger les mairies, maintenir l'ordre et collecter les taxes municipales. Leur syndicat avait demandé des armes, une garantie de promotion et même le casernement. Les responsables municipaux avaient répondu que ces exigences étaient bien au-dessus de leur autorité.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'État islamique a diffusé hier un enregistrement audio que le groupe terroriste attribue à son chef Abu Bakr al-Baghdadi. Ce document sonore a été publié en ligne quelques jours après que certains représentants irakiens avaient affirmé qu'il avait été blessé lors de frappes menées en Irak. Dans l'enregistrement, al-Baghdadi appelle ses partisans à faire exploser partout les volcans du djihad. Il déclare également que la campagne de raid aérien lancée par la coalition internationale, dirigée par les États-Unis, a échoué et que les Américains devraient éventuellement envoyer des troupes au sol pour poursuivre la bataille.
Le président américain s'est dit optimiste sur l'évolution politique en Birmanie, pays aussi connu comme le Myanmar. Lors d'une réunion hier avec des parlementaires birmans à Naypyidaw, la capitale, Barack Obama a déclaré qu'il avait confiance dans l'avènement de nouveaux jours, tout en réclamant davantage de réformes. La chef de file de l'opposition birmane, Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix, a participé à la rencontre avec le président Obama. Un tête-à-tête entre les deux personnalités est prévu ce vendredi. C'est la Birmanie, sortie en 2011 d'un demi-siècle de régime militaire, qui abrite pour la toute première fois le sommet de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est.
Ici même aux États-Unis, le sénateur du Kentucky, Mitch McConnell, a été réélu chef des Républicains au Sénat pour les deux prochaines années. Leur parti formera la nouvelle majorité à partir de janvier, après les élections de mi-mandat du 4 novembre. Ce scrutin a été nettement en faveur des Républicains, aux dépens des démocrates, le parti du président Barack Obama. Quant au sénateur Harry Reid, il va continuer à diriger les élus démocrates au Sénat, mais cette fois-ci en tant que leader de la minorité. Le Congrès américain est également composé de la Chambre des représentants, où les Républicains ont aussi conforté leur majorité à l'issue de ces mêmes élections.
Toujours aux États-Unis, une lettre haineuse envoyée par le FBI à Martin Luther King en 1964 est rendue publique dans son intégralité. Elle a dénoncé le pasteur comme un diable et menacé de révéler ses infidélités pour le pousser au suicide. Jean-Roger Bion.
Le document a été publié pour la première fois par le New York Times. Cette lettre a été envoyée en 1964, un an après le fameux discours de Martin Luther King « Je fais un rêve ici même à Washington ». Ce test anonyme tapé à la machine à écrire le traitait d'imposteur, de diable et d'animal dégoûtant. À l'époque, la police fédérale était dirigée par l'implacable J. Edgar Hoover, mais le journal précise que la lettre a été écrite par l'un de ses adjoints, William Sullivan. Elle a été envoyée au pasteur avec un enregistrement audio prouvant qu'il avait une liaison extra-conjugale, suggérant qu'il ne lui restait qu'une seule chose à faire, le suicide. Hoover estimait que Martin Luther King était influencé par les communistes, alors que le champion des droits civiques l'accusait de son côté de ne pas mettre fin aux violences contre les Noirs dans le sud des États-Unis. Martin Luther King a été assassiné le 4 avril 1968 à Memphis à l'âge de 39 ans. Il était déjà Nobel de la paix. Maintenant, Martin Luther King's Day, le troisième lundi de janvier, est un jour férié dans tout le pays. Quant à J. Edgar Hoover, l'immense siège du FBI à Washington porte son nom et l'Amérique est aujourd'hui présidée par un noir nommé Barack Obama.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Anne. Vous êtes toujours branché sur la VOA émettant de Washington. Le monde aujourd'hui continue. Jacques Aristide toujours avec vous. Cap sur la République démocratique du Congo, où le gouverneur du Nord Kivu accuse un nouveau groupe armé de sévir dans le nord de la province. Julien Paluku indique que ce mouvement insurrectionnel a vu le jour à Vurundu, localité de Beni. Il dénonce l'homme politique Antipa Mbusa Nyamusi de tirer les ficelles dans l'ombre en instrumentalisant, selon lui, les jeunes de cette partie de la province. Dans ce dossier préparé par notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rudaigua, la parole d'abord à Julien Paluku.
Ce qui est grave, c'est que l'insécurité à Beni n'est pas seulement l'œuvre des rebelles ougandais. Elle est facilitée par les enfants de Beni. Et vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'ai fait une réaction musclée lorsque un des notables de Beni, notamment M. Mbusa Nyamusi et Sire RFI, avait déclaré que lui était informé de tout ce qui se passe à Beni une semaine avant. Et j'avais réagi énergiquement pour dire que c'est quand même très grave pour un notable d'un coin qui soit informé qu'on va tuer ses frères et qu'il ne dise rien. On est en train de citer Mbusa dans certaines choses. La plupart des gens commencent à dire non, Julien aussi attaque Mbusa. Mais ce n'est pas l'effet de Julien. Lorsqu'un fils de la communauté se révèle être criminel, on doit le dénoncer. Les arrestations vont avoir lieu à Goma, à Butembo, à Beni et dans tous les territoires. Il ne faudrait pas que les gens crient, je ne sais pas, à la chasse à l'homme. Toute personne qui sera citée dans ces réseaux ici, dont nous avons déjà l'échantillon, sera arrêtée, quel que soit son rang, politique, civil ou militaire. Je l'annonce solennellement.
Réplique du conseiller en communication et porte-parole de Mbusa Nyamwisi. Déclaration sans fondement de Julien Paluku, affirme Jean-Louis Ernest Kiaviro, qui parle d'une cabale politique fomentée par le pouvoir en place en vue de réduire au silence les dirigeants du Rassemblement congolais pour la démocratie. Nous l'écoutons.
Mon chef, dont je continue à être conseiller, il y a une propagande contre lui qui passe dans des rues. Aujourd'hui, le chef de l'exécutif provincial répétait les mêmes choses. Nous devons rappeler au monde entier que le gouverneur vient du RCD-KML. Il est jusqu'aujourd'hui député national sur la liste du RCD-KML. Et il a un parti politique dont l'espace naturel, c'est le même espace que le RCD-KML. Quoi qu'il ait dit la vérité, si c'est une vérité, c'est un peu gênant parce que c'est un adversaire politique. C'est le premier adversaire politique de Mbusa Nyamusi. Nous pensons que s'il y a des preuves de ce genre de choses, nous allons voir. S'il y a une vingtaine de personnes qui déclarent la même chose sans preuve, il n'y aura pas d'effet. Nous croyons que c'est une déclaration contre-productive. J'espère qu'on ne va pas accuser aussi Mbusa Nyamusi d'avoir décapité la statue de son grand frère. Nous attendons de voir les preuves qui vont être données. S'il n'y en a pas, nous comprendrons que ce qu'on a annoncé, c'est-à-dire la décapitation de tous les leaders du RCD-KML, vient justement d'être annoncée par le gouverneur. Nous sommes convaincus que s'il n'y a pas de preuves, c'est que c'est une énième cabale politique.
Jean-Louis Ernest Kiaviro, porte-parole du politicien congolais Mbusa Nyamusi.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Retour au Burkina Faso, où une étape importante a été franchie hier avec l'adoption par l'armée et les civils d'une charte fixant les institutions de transition. Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou, nous propose d'autres réactions.
Abstention, bon, quel changement de chapeau. Le présent projet de charte de la transition a été adopté à l'unanimité.
Sur le consensus de la charte et ses points saillants, suivons les explications de Luc Marus Ibriga, le porte-parole de la société civile.
C'est un texte consensuel qui a permis d'aplanir les points d'achoppement concernant le Conseil national de transition. Aujourd'hui, nous sommes à 90 membres du Conseil national de transition, 30 représentants pour les partis politiques, 25 représentants pour la société civile, 25 pour les forces de défense et de sécurité et 10 pour prendre en compte l'inclusion des partis de l'ex-majorité ou de la mouvance présidentielle. Une des innovations, c'est que les chefs coutumiers et religieux ne proposeront pas de candidats. mais ils auront une place prépondérante dans le collège de désignation pour avoir un président de la transition. Dans les conditions pour être président de la transition, il ne faut pas être affilié à une formation politique. Chaque composante va proposer 3 noms et c'est sur la base de ces 3 noms que le collège de désignation va faire une présélection pour ne retenir que 3 noms et va entendre ces 3 personnalités et ensuite décider par consensus. Il n'y a pas de vote.
Pour le premier ministre de la transition, la charte a préféré laisser libre choix au président de la transition. Écoutons ce qu'en dit Luc Marius Ibriga.
Il n'était pas bon que l'on impose au président de la transition un premier ministre. C'est une courte période et il faut que le président et le Premier ministre soient en phase pour que le travail puisse avancer. Et donc, nous avons tous été d'accord qu'il n'y a pas à donner des postes et qu'il ne fallait pas que nous donnions l'impression que nous allons faire des partages de dépouilles. Ce n'est pas un gibier que nous avons abattu et nous allons nous partager les quartiers. Donc, le président de la transition a la latitude de choisir le Premier ministre, militaire ou civil.
C'est avec un grand ouf de soulagement que Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, a accueilli l'adoption de la charte.
Depuis dimanche, arrêté ici au niveau des composantes que sont les partis politiques, la société civile et les autorités coutumières et religieuses, un projet de charte. Il a ensuite fallu le soumettre aux nouvelles autorités. Et c'était un jeu de ping-pong, puisque chaque fois, des commentaires, des révisions, des propositions venaient. Et il fallait en même temps aussi les évoquer ici en plénière avant de repartir. Mais là, nous sommes au bout du processus. Nous avons un document qui est un document consensuel entre l'ensemble des parties prenantes de la transition, y compris et surtout l'armée. Et ce qui nous reste maintenant, c'est de commencer le mécanisme de désignation d'un chef de la transition avant que les choses commencent à aller de l'avant.
Zoubana Ounogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Jacques Aristide avec vous dans Le Monde aujourd'hui. Des essais cliniques pour identifier un traitement contre le virus Ebola seront bientôt effectués en Afrique de l'Ouest. À l'initiative de Médecins Sans Frontières, l'organisation humanitaire accueillera les tests dans 3 de ses centres de traitement. Les études distinctes seront menées par 3 différents partenaires de recherche avec l'appui de l'Organisation Mondiale de la Santé et les autorités sanitaires des pays affectés. Camille Grosdidier a voulu en savoir davantage avec le docteur Annick Thérence, qui coordonne les essais pour MSF.
Il y a 3 essais qui sont planifiés, 2 avec des produits qui sont déjà employés contre d'autres virus, ce sont des antiviraux, dont un, on sait déjà qu'on va pouvoir commencer à Guéquédou en Guinée, avec l'Institut National de Santé et de Recherche Médicale française, et le deuxième produit, c'est avec l'Université d'Oxford, et pour cela, on a pas encore les derniers détails sur quel site on va prendre. On est en négociation avec les gouvernements, mais on n'a pas encore la réponse finale. Et le 3e essai que nous voulons mener est un essai sur le plasma et le sang convalescent avec l'Institut Tropical de Anvers, en Belgique. Et cet essai-là va commencer à Conakry, en Guinée.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces antiviraux, notamment le favipiravir et puis le brincidifovir?
Nous sommes partis avec nos partenaires d'une liste de produits présélectionnés par l'OMS. L'OMS, en consultation, a présélectionné une 10aine de produits qui étaient susceptibles d'avoir une efficacité sur le virus et qui ne sont pas des médicaments qui peuvent avoir juste un effet sur l'immunité, le renforcement de la personne ou sur des symptômes qui sont produits par le virus de l'Ebola. Et cette liste d'une 10aine de produits, avec nos partenaires, nous les avons scrutés selon des critères bien définis qui sont les données existantes sur l'efficacité. Et ça, ce sont des données qui sont suites ou bien à des essais en laboratoire, en in vitro, ou bien des études qui ont été menées sur des animaux. Le 2e critère était un critère de sécurité, de s'assurer que si le médicament avait déjà été employé chez des humains, qu'il n'y avait pas de problème d'effet secondaire majeur. S'il n'avait pas été étudié sur des humains, que les animaux n'avaient pas montré d'effet secondaire majeur. Le 3e critère était un critère de disponibilité. Il fallait évidemment avoir suffisamment de médicaments pour pouvoir faire l'essai, mais aussi nous voulions avoir une garantie qu'il y aurait suffisamment de disponibilité des médicaments pour pouvoir donner beaucoup plus largement si l'essai démontrait une belle efficacité. Qu'on ne soit pas obligé d'arrêter de donner un médicament efficace aux patients sous prétexte que l'essai était fini. alors que le produit montrait une bonne efficacité. Et le dernier, qui est moins important, mais qui a quand même aussi eu son mot à dire dans la balance, c'est la facilité d'administration. C'est beaucoup plus facile d'administrer des comprimés que de faire des infusions qui durent plusieurs heures.
Le docteur Annick Antirance de MSF jointe à Genève. Vous êtes bien branchés sur La Voix de l'Amérique. Le monde aujourd'hui se poursuit. C'est aujourd'hui que doit débuter N'Djamena, le procès pour assassinat et torture de 26 complices présumés de l'ancien président tchadien Hissène Habré, lui-même inculpé de crimes contre l'humanité par les chambres africaines extraordinaires, siégeant à Dakar. Celle-ci avait demandé le transfèrement ou tout au moins l'audition de deux des prévenus, Salih Younous, un ancien directeur de la police politique de Habré, ainsi que Mahamat Djibrin, dit El Djonto, un agent de cette police. Mais les autorités judiciaires tchadiennes s'y sont opposées. La justice s'est mise en marche au Tchad, une dizaine d'années après la plainte déposée à N'Djamena en l'an 2000 par les victimes présumées. Timothée de Langmaille a joint à N'Djamena Daniel Dezombe Passalé, président de Droits de l'Homme sans frontières.
Toute l'inquiétude est à ce niveau. La plainte date de l'an 2000 et l'État tchadien a traîné les pas. Il faut attendre à ce que le procès ait lieu et qu'il se déroule normalement. Parce que on n'est vraiment pas sûr que l'administration tchadienne a pu extirper tous ceux qui avaient travaillé avec la DDS. Ça se passe comme si ceux qui ont travaillé avec la DDS occupent de hautes fonctions, ont la possibilité toujours de ralentir le procès. C'est comme si le gouvernement tchadien dans son ensemble n'avait pas un grand intérêt à ce que ce procès se tienne. Voilà pourquoi ce procès a mis du temps sans qu'il ne se tienne.
La justice tchadienne s'est opposée au transfèrement de certains de ses complices présumés. Qu'en est-il?
C'est ça, ce sont ces gens-là que la justice tchadienne veut les juger sur place au Tchad. Elle s'est opposée pour divers motifs, dont entre autres, les gens estiment qu'ils ne peuvent pas extrader les Tchadiens qui sont là et que la justice est aussi au Tchad, dans un État souverain, qu'il faut les juger. Or, nous avons craint et continuons toujours par craindre la neutralité, l'équité, l'indépendance de la justice tchadienne. C'est simplement pour ça que nous autres, nous avions souhaité que ces gens-là soient extradés pour qu'ils soient jugés. Mais le gouvernement tchadien a dit autre chose. Maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. Donc on va attendre ce qu'il va faire.
Quelles sont les attentes des victimes aujourd'hui au Tchad?
Les victimes, pas seulement les victimes, même les Tchadiens dans leur ensemble, veulent que ceux dont l'évocation de leur nom dans les couloirs fait frémir toutes les victimes, que ces gens-là répondent vraiment. Qu'il y ait une justice qui s'abatte sur ces gens-là, de toute équité, en toute indépendance. Vraiment que ces gens soient jugés équitablement. Voilà l'attente des Tchadiens, voilà l'attente des victimes.
Est-ce que les conditions sont réunies pour une telle justice?
Difficile à dire parce que la justice tchadienne a en ce moment tout sauf l'indépendance. Donc c'est difficile de croire que dans un État où la justice obéit aux ordres du pouvoir, c'est difficile de croire que ces gens qui ont toujours des acquaintances avec le même pouvoir, que ces gens-là puissent être jugés équitablement.
Daniel Dezombe Passalé, président de l'ONG tchadienne Droits de l'Homme sans frontières. C'est évidemment le jingle qui annonce les sports et nous retrouvons ce matin Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Jacques.
Une question qui revient sur le tapis, où aura lieu la fameuse CAN 2015?
Oui, c'est toujours le flou, hein, mais ce qu'on sait, c'est que le président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, est attendu ce vendredi à Malabo pour s'entretenir avec le chef de l'État équato-guinéen, Teodoro Obiang-Nguema, au sujet de l'organisation de la CAN 2015. Le ministère des Sports n'a toutefois fait aucun commentaire sur une possible organisation de la CAN 2015 par la Guinée équatoriale, déjà co-organisatrice de la compétition avec le Gabon, en 2012.
L'auteur d'un rapport accablant pour la FIFA accuse l'organisme d'avoir tronqué son document.
Oui, Michael Garcia, l'auteur du rapport sur les soupçons de corruption autour de l'attribution des mondiaux 2022-2018 au Qatar et à la Russie a dénoncé une présentation erronée et incomplète de son enquête par la FIFA. Il faisait allusion à la présentation du président de la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA, Hans-Joachim Eckert, qui avait conclu de sa lecture du rapport que l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar n'avait pas lieu d'être remise en cause malgré les éléments douteux de portée très limitée, ce sont ses expressions.
Pour cause d'Ebola, Dortmund bloque le capitaine du Gabon sollicité pour les éliminatoires de la CAN.
Oui, certainement une très mauvaise nouvelle pour le Gabon. Dortmund a profité d'une convocation tardive de la Fédération gabonaise de football pour empêcher son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang de rejoindre sa sélection pour les prochains matchs de la CAN 2015. Le joueur et sa fédération devront trouver un accord avec le Borussia Dortmund qui, selon le journal Bild, tente depuis plusieurs jours de convaincre son joueur de rester en Allemagne pour ne prendre aucun risque. Et pour terminer, Jacques, les résultats des matchs disputés jeudi soir en NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, Bagassi, Memphis a vaincu Sacramento par un petit point, 111-110. Toronto a perdu face à Chicago, 93-100. Dallas a obtenu 123 points contre Philadelphie, 70 points. Et dans le dernier match qui se joue encore, le Golden State mène par 96-90 face à Brooklyn. L'heure de notre grand bol d'air frais musical du matin avec Roger Muntou, bien sûr. Bonjour Roger.
Bonjour Jacques. Écoute Jacques, c'est le feuilleton musical du moment. Katy Perry va-t-elle chanter lors du Super Bowl 2015? Écoute, après avoir botté en touche et renvoyé la balle dans le camp de la National Football League, la pop star a laissé entendre sur Twitter qu'elle participerait bel et bien à l'événement. Je rappelle, Jacques, toi tu le sais déjà très bien, mais nos amis peut-être ne le savent pas trop bien. Mais écoutez, le Super Bowl est la finale du championnat de football américain. C'est l'événement sportif le plus regardé aux États-Unis, n'est-ce pas, Jacques?
Évidemment.
J'espère que tu restes avec les amis, regarder le Super Bowl.
On fera la fête d'ailleurs.
On fera la fête chez toi. Jacques, écoute, ce matin, on propose à tous nos auditeurs une belle chanson de Katy Perry. On écoute This Is How We Do.
Roger, après Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry sera-t-elle la prochaine pop star à se produire lors de la mi-temps du Super Bowl?
Mais qu'est-ce que t'en penses, Jacques?
J'aurais bien aimé qu'elle le fasse.
Mais écoutez, Jacques, écoutez, si aucune annonce officielle de la part de la National Football League n'est venue confirmer la rumeur persistante, tous les voyants semblent au vert pour que la chanteuse américaine se produise le 1er février prochain dans l'antre de l'Université de Phoenix Stadium à Glendale, en Arizona.
Katy Perry, This Is How We Do. Merci, Roger.
De rien, Jacques. Merci à vous et merci, bien sûr, à tous nos amis qui sont en train de nous suivre à Mweka en RDC. Je dois dire merci à Dieudonné Minga.
Roger Muntou, le chef d'orchestre du RM Show qui revient ce soir à 20h TU.
N'importe quoi, Jacques. Merci, Jacques.
In last night's dress. I see you. Yo, this goes out to all you kids that still have their cars at the club valet, and it's Tuesday. Yo, shout out to all you kids buying bottle service with your rent money. Respect! This is how we do. This is how we do. Yeah, yeah. To the laid back street.
Voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Je remercie Anne Albertson qui a assuré la réalisation comme elle l'a fait depuis ce lundi. Anne, que vous retrouverez dès la semaine prochaine. Quant à moi, c'est ici que je vais prendre congé de vous. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Très bonne journée, très bon week-end sur la VOA. À bientôt. Take care.